Bonjour, donc moi je m'appelle Jean-Paul et je travaille au CMEA. Donc les CMEA sont les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active et on est un mouvement d'éducation. On fait principalement de la formation et on fait de la formation pour tous les acteurs d'éducation, que ce soit des enseignants, que ce soit des animateurs, animatrices, que ce soit des gens qui travaillent dans les crèches, donc des puériculteurs, des puéricultrices. On fait de la formation qualifiante pour des demandeurs d'emploi peu qualifiés. Enfin, vraiment, on travaille sur toutes les personnes qui agissent d'une manière ou d'une autre dans l'éducation. Et on organise aussi des séjours et des plans de vacances pour les enfants pendant les périodes de vacances. Donc ça, c'est le cœur de notre travail au quotidien. Et sur la question du passage au libre dans notre association, ça s'est fait en 2006. Ça a commencé en 2006. C'est pas fait en une fois. Hein. C'est un travail quand même assez long. Ça s'est fait à partir de 2006 et ça s'est fait alors pas tellement au départ de questions politiques ou de choses comme ça. C'est la personne qui s'occupait des ordinateurs dans l'association, mais qui faisait partie de l'équipe pédagogique aussi, mais qui a voulu, qui a reçu à un moment un CD d'Ubuntu en 2006, Ubuntu 06, et qui l'a installé sur sa machine. Pour essayer, pour chipoter, et puis qui a vu que ça fonctionnait, et au fil du temps, il y a quand même eu une conscience politique qui s'est dégagée autour de ça, en se disant, en tant que mouvement d'éducation, en tant que mouvement qui veut émanciper les personnes, qui veut leur donner de l'accès à la connaissance le plus largement possible, la philosophie des logiciels libres, elle s'inscrivait complètement là-dedans aussi. Et donc, il y a eu une forme d'acceptation, en tout cas au niveau philosophique, au sein de l'institution, de se dire c'est vers cette direction-là qu'il faut qu'on aille. Et alors, les outils numériques, ils n'étaient pas utilisés dans le cadre des actions qu'on menait directement avec le public à ce moment-là. C'était plutôt au niveau des outils administratifs, quoi, qui permettaient de gérer les inscriptions, qui permettaient d'écrire les courriers, des choses comme ça. Et donc, ça s'est fait... je vais dire naturellement, mais c'était quand même une forme d'imposition au reste de l'équipe, en sachant qu'il y avait des réticences, parce que tout le monde avait l'habitude d'utiliser les outils qu'il connaissait, qu'il avait appris à l'école, qu'il avait l'habitude d'utiliser chez lui, et tout était sous Windows au CMEA à ce moment-là. Et puis chaque fois qu'on achetait une nouvelle machine ou qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait, en fait, le système d'exploitation qui était utilisé, c'était... Ubuntu, et c'était ça qui était installé, et il n'y avait pas vraiment d'alternative, c'était ça qui était proposé. Donc voilà, après ça s'est fait quand même avec pas mal de réticences et tout ça, mais ça s'est fait de manière graduelle et avec différents outils qui se sont mis en place au fur et à mesure. Voilà, on avancera peut-être plus tôt dans la discussion. Je te laisse poursuivre.
Donc je m'appelle Benoît, je travaille pour Inter-Environnement Bruxelles, IEBEL. On est une fédération de comités d'habitants, de comités de quartier et de groupes d'habitants à Bruxelles exclusivement. On existe depuis 50 ans et on fédère, on mobilise, on soutient différentes luttes locales. Et on réfléchit, on écrit beaucoup sur la ville globalement. On a un journal qui est un de nos principaux médias, un bimestriel, qui s'appelle Bruxelles en mouvement, que vous pouvez retrouver dans 200 endroits à travers la ville gratuitement. On peut s'abonner aussi pour un abonnement à prix coûtant, juste pour le prix de l'impression et du timbre. Alors, nous, on travaille en logiciel libre depuis... au moins 15 ans, donc c'est passé aussi par les postes de travail au début. Donc il y a eu une grosse période de réflexion sur les valeurs de l'association vers 2010. Donc avant, on était considéré un peu comme une extension de l'administration, c'est-à-dire qu'en fait, on répondait à des appels d'offres que l'administration bruxelloise produisait et on faisait exactement ce qu'elle voulait. Et puis, il y a eu, vers 2010, une envie de changer cela, d'être beaucoup plus critique. Et c'est dans ce mouvement-là qu'est née la volonté de fonctionner aussi avec des logiciels libres. À l'époque, on a fait appel, moi je n'étais pas là, mais les collègues ont fait appel à Tactique pour migrer le parc informatique de ceux qui le voulaient, parce qu'encore aujourd'hui, donc il y a 16 travailleurs il y a encore 6 ordinateurs qui ne sont pas sous Linux, 3 sur Windows, 3 sur Mac, parce qu'on n'a jamais eu envie d'imposer quoi que ce soit. Donc il y a 2 de ces ordinateurs qui ne sont pas sur Linux pour des raisons objectives, parce que les logiciels utilisés ne sont pas libres et ne sont pas disponibles sur Linux. Les autres, c'est plutôt des questions d'ordinateur. Voilà, après, si ces personnes ont envie de changer, on va les accompagner, et sinon, ben on ne va pas imposer. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui doit venir individuellement aussi. Oui, je pense qu'on peut passer à la suite peut-être.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir déjà là-dessus ou bien.
Mais en fait, chez nous, il y a une haute conscience politique et militante de l'intérêt porté pour ces logiciels libres. Il y a une certaine fracture numérique également. Et spécifiquement, nous, on a installé Nextcloud, du coup, qui peu importe le type de hardware, est imposé en fait à tous. Et ça a créé en fait des résistances. J'ai entendu des « j'ai plus confiance au logiciel libre ». Je dis « mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus faire confiance au logiciel libre juste parce que ça ne marche pas aussi vite ou parce que… » Voilà. Donc c'était un peu pour voir si d'autres associations avaient connu ce genre de cas, qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en place. J'ai l'impression peut-être qu'on a été trop vite, peut-être qu'on n'a pas approfondi la question, peut-être qu'un petit… un petit séminaire comme ce matin aurait peut-être permis de saisir beaucoup plus d'enjeux et donc de… donner envie de faire des efforts, d'avoir plus de patience, de s'adapter à l'outil. Voilà, ça c'est une difficulté qui nous traverse dans cette transition.
Mais donc plus par rapport aux difficultés, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit. Donc nous au CMA, alors pas au moment où on a commencé à passer au logiciel libre, mais maintenant on est 40 dans l'équipe, et donc ça veut dire quand même 40 avec chacun une machine sur 2 sites, un à Liège, un à Bruxelles. Donc c'est quand même un parc assez important. Et en fait les réticences qu'on a eues, ben, c'est des choses comme tu l'évoquais, c'est de dire c'est l'utilisation de l'outil informatique, c'est quelque chose de très intime, hein. On est tous avec un ordi qui est le nôtre, qu'on a l'habitude d'utiliser, dans lequel on met nos trucs à nous, pareil dans les téléphones et dans les tablettes et tout ça. Et donc ça, moi, je m'en suis rendu compte au fil du temps. Dès qu'on vient toucher à ces choses-là, c'est très, très, très émotionnel en fait pour les personnes. On vient toucher à une partie d'elle-même, et donc il y a des résistances au changement. Et ben, les résistances que nous on a pu avoir, c'était vraiment des gens qui n'avaient pas envie de changer. Et donc par rapport à ce que tu évoquais, Benoît, sur laisser le choix ou pas. Chez nous, à un moment, on s'est rendu compte que si on laissait le choix aux personnes, ça ne changerait jamais. Et donc, on a, sur les 40 personnes qui ont un ordinateur, il y en a une qui est encore sur Windows, et elle a une machine qui est la plus lente de toutes celles qui peut exister, qui fonctionne le moins bien de tout, mais c'est presque impossible pour elle de changer parce qu'elle est trop attachée à ses habitudes, à ses fonctionnements, et à une crainte de se retrouver face à quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour lever un petit peu tous ces risques-là, c'est effectivement, ben, c'est de montrer que ça marche, quoi. Et donc nous aussi, on est passé sur Nextcloud, on est passé avec toute une série de logiciels que les gens n'utilisaient pas avant. Et en fait, ça fonctionne. Il faut arriver à lever chaque fois qu'il y a un petit problème, ben, il faut se rendre disponible à pouvoir le résoudre. Sinon, effectivement, les gens restent avec une insatisfaction, avec quelque chose qui fonctionne pas et qui reste coincé chez eux, quoi. C'est vraiment ça qu'il y a eu. Mais la plus grosse difficulté, c'est d'un moment de se dire ok, on va changer, quoi. Et c'est très très difficile pour les individus de se dire à moins que d'être complètement convaincu, de se dire ok, je vais changer.
Alors, on a connu et on connaît toujours les résistances. Nextcloud, on y est passé aussi, mais ça n'a pas remplacé quelque chose qu'on existait. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de résistance. Par contre, on a changé il y a 3-4 ans notre base de données de contact qui nous sert essentiellement à gérer les abonnements du journal, mais aussi qui est une base de données des contacts de toute l'association, donc que tout le monde utilise. Et là, il y a eu pas mal de réticences parce que l'ancien outil était très complexe, mais l'équipe avait appris à l'utiliser. Et donc, c'était perdre toute une série d'acquis qui avaient déjà été difficiles à obtenir. Donc ça, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de résistance. Et puis, ben, du coup, on s'est fait accompagner donc, par Tactique qui nous a installé le logiciel et configuré. On a fait une formation ensemble. Et puis, bah, effectivement, il faut se montrer disponible à chaque fois qu'il y a une difficulté pour pouvoir y répondre. Et en fait, bah, maintenant, j'ai l'impression que les difficultés sont passées et on est arrivé à quelque chose de mieux, c'est-à-dire que le nouveau logiciel, qui est CiviCRM, fait plus que ce que faisait avant le logiciel propriétaire. Parce que, en fait, avant, on avait un truc qui n'était pas tout à fait adapté à nos besoins et ça ne l'est jamais, en fait. Donc, on utilisait un champ commentaire pour mettre toute une série de choses et on ne pouvait pas faire des recherches très intelligentes avec ça. Aujourd'hui, on peut, parce que ce logiciel, on l'a vraiment configuré pour nos besoins qui sont quand même assez spécifiques. Et donc, on a plus. On peut faire plus de choses. Et donc, là, maintenant, ben, les réticences qui existaient à ce niveau-là, elles ne sont plus là. Alors, on en connaît d'autres à d'autres endroits. Donc, je parlais tout à l'heure des ordinateurs encore sous Windows ou Mac. Ben, là, il y a un truc nouveau qui se passe à partir de. Pour Windows, c'est que le passage de Windows 10 à Windows 11. Donc, vous savez qu'en octobre prochain, Windows 10 ne sera plus mis à jour, va expirer. Et les machines ne seront pas toutes compatibles, loin de là, pour passer à Windows 11. Il faut du matériel certifié Microsoft. Et donc là, ben, on se retrouve à un choix. Il ne s'agit pas juste de continuer à financer la licence Windows. Il faut en plus racheter de nouvelles machines, alors que celles qu'on a, elles fonctionnent. Sachant qu'on est lourdement en déficit, bah, ça nous embête. Et donc, OK, pour les raisons objectives, tel logiciel ne fonctionne pas sous Linux, bah, OK, peut-être que là, on peut faire une exception, mais sinon, c'est pas utile. Et alors, bah, du coup, on fait vraiment un accompagnement par rapport à ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. On a quelques ordis portables en RAB, j'ai installé Linux dessus et j'ai installé tous les logiciels qu'ils utilisent ou leur équivalent à côté de leur poste de travail sous Windows. Et donc, on fait une transition comme ça, en douceur. Les deux postes de travail sont utilisés en parallèle et ben voilà, petit à petit, on voit, ben tiens, c'est vrai que c'est quand même plus rapide que sous Windows, on peut faire finalement la même chose, etc. Voilà. Bon, c'est des exemples concrets, hein. Peut-être qu'il y a plein d'autres réticences auxquelles je n'ai pas pensé, mais en tout cas, voilà comment on a géré celle-ci.
Dans ce cadre-là, donc les problèmes de résistance subjective ou bien les problèmes objectifs comme un logiciel qui n'existe pas encore sous Linux, est-ce que vous, bien tactique, vous avez régulièrement ou pas des gens qui demandent à essayer d'installer un logiciel Windows sous Linux, donc par exemple avec un émulateur comme Wine. Donc pour les gens qui savent pas, il y a moyen dans certaines conditions de faire tourner des logiciels Windows sous Linux avec un machin intermédiaire qui fait comme s'il se croyait sous Windows. Et ça permet donc a priori d'avoir un ordinateur avec tous les logiciels habituels sous Linux, plus quelques logiciels un peu spécifiques ou tordus sous Windows, enfin, sous Linux comme si c'était Windows.
Donc on passe pas par cette voie-là. Donc on passe pas par l'installation Wine pour pouvoir utiliser le logiciel Windows. Enfin non, on ne le fait pas. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que souvent les gens ils veulent qu'on installe ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui a l'habitude de faire du traitement d'image et qui va dire ah oui, mais moi je voudrais installer Photoshop sur mon Linux. Et on lui dit il y a pas. Mais en fait, le problème c'est pas d'installer Photoshop, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait. Et à partir du moment où on commence à parler de ce qu'on veut faire, on trouve des alternatives qui vont pas être la réponse avec le même logiciel, mais avec des choses qui permettent de le faire aussi. Et souvent, c'est vraiment ça la question. C'est quelle est l'utilité que tu veux avoir avec la machine que tu as? Et généralement, on trouve des solutions qui sont ben, des logiciels libres, en tout cas des logiciels qui fonctionnent sous Linux dans notre cas.
En fait, il y a essentiellement trois logiciels propriétaires non libres qu'on utilise. Le logiciel de comptabilité qui s'appelle Winbooks. On a InDesign pour faire la mise en page du journal. Et on a DaVinci qui est un logiciel de montage vidéo. Et donc, c'est C'est alors Winbook, ça fonctionne en ligne, c'est un site web. Bon, c'est propriétaire, on paye une licence annuelle pour ça, mais en tout cas, ça ne contraint pas l'utilisation de Linux. Donc ça n'est pas une des raisons qui nous fait garder un des Windows ou Mac. Par contre, bon, InDesign, ça fonctionne que sous Mac ou Windows. C'est vrai que là, on pourrait utiliser Wine. On n'a pas encore exploré cette piste-là. On pourrait aussi utiliser Scribus, qui est une alternative à InDesign, mais le truc, c'est que donc on a un graphiste qui a fait une formation, qui, lui, durant sa formation, a appris InDesign, et je veux bien, moi je ne suis pas graphiste, je ne fais pas son travail, et je veux bien croire que InDesign soit plus complet que Scribus, et en tout cas, moi je ne vais pas, je ne pense pas que quelqu'un au sein de l'association va lui imposer d'apprendre un nouveau logiciel, etc. Donc, pour le moment, on fait ça, mais en gardant à l'esprit que bah, cette situation-là nous fait payer une licence Adobe de 1000 euros par an, nous fait maintenir et racheter toutes les X années un Mac. Donc voilà, ça a des conséquences budgétaires aussi qui sont quand même pas négligeables. Et le troisième logiciel, DaVinci, eh ben, paradoxalement, ça existe sous Linux, mais la version Linux est un petit peu moins performante dans le sens qu'elle n'inclut pas les bons codecs qu'il faudrait, donc les petits outils qui permettent de faire une vidéo, de la sortir au bon format qu'il nous faudrait. Parce que la version Windows et Mac inclut ces petits bouts de code propriétaires, la version Linux ne les inclut pas, et donc c'est beaucoup plus lent, c'est moins efficace de la faire tourner sous Linux. On est très ouvert, ce qui est paradoxal, c'est que la personne qui fait ce montage, c'est un utilisateur Linux, personnellement chez lui. Donc voilà, on est tous très ouverts à ça, on cherche des solutions, pour le moment on n'a pas trouvé.
Juste pour compléter, chez nous aussi, hein, donc les deux seuls logiciels qui continuent à fonctionner sur Windows, c'est effectivement Winbox pour la compta et je pense que c'est InDesign qui l'utilise aussi pour le graphisme. C'est vraiment ces deux-là.
Moi, j'ai une question par rapport aux les relations avec les pouvoirs subsidiants qui imposent parfois pour le reporting des tableaux Excel, par exemple, avec des qu'on ne sait pas travailler dans d'autres logiciels. Votre option, c'est de les travailler en Excel ou bien vous essayez de les renvoyer en calque et vous voyez ce qui se passe ou voilà, par rapport aux pouvoirs subsidiants.
Bah, effectivement, nous on travaille exclusivement avec LibreOffice. Et alors en interne, on utilise les formats ouverts ODT et ODS. Maintenant, si l'administration nous envoie un XLS, bah, on fait avec. Et en fait, ça fonctionne très bien sous LibreOffice. Moi, j'ai jamais vu quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou peut-être il y a vraiment très très longtemps. Bon, les fonctions ne sont pas nommées pareilles, donc si on veut faire des choses assez complexes, bah, on peut les faire, mais pas de la même façon. Mais dans un fichier envoyé par l'administration, moi, j'ai jamais vu des choses qui ne fonctionnaient pas. Après, il y a d'autres expériences, je ne sais pas.
Pareil. Non, mais c'est vrai, on a jamais eu de souci avec les fichiers qui nous étaient envoyés. On a chaque fois réussi à les compléter. Les seuls moments où on a des soucis, c'est parfois des gens qui mettent des protections sur des cellules et on ne sait pas les enlever, donc on ne sait pas remplir la cellule, mais c'est pas lié enfin, au logiciel qu'on utilise, quoi.
Il y a parfois des tout petits éléments de mise en page qui sautent, mais c'est des trucs
Ouais,
vraiment
c'est ça.
anecdotiques, quoi.
Moi, peut-être sur ce truc-là, en Word, il y a pas mal de problèmes. Il y a des administrations qui ont des documents Word template pour remplir, et là, si tu fais ça en OpenOffice, c'est un désastre. Mais bon. Moi, je voulais parler. Je travaille chez Max. On fait partie des CABANS, qui est le réseau des espaces publics numériques à Bruxelles et des acteurs de l'inclusion numérique. Hier, on avait toute une journée avec des animateurs, une rencontre entre les différentes organisations. On a parlé beaucoup de Linux, des questions de Windows qui arrête son support. Et il y avait deux observations que je trouvais intéressantes. Premièrement, si on dit maintenant c'est le moment peut-être de tout changer vers Linux, ça implique énormément des choses pour les animateurs et les informaticiens publics qui travaillent dans les espaces publics numériques, parce que de tout un coup le système change tout à fait, mais aussi tous leurs outils, tous leurs feuilles, etc. Alors là, ça c'est une réticence et résistance peut-être. Une deuxième observation, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est intéressant de dire, nos publics qui vivent ici dans la zone du canal, qui cherchent du travail, qui ont une position faible au marché du travail, est-ce que si on va pour le libre et open source, est-ce qu'on les éloigne pas d'un monde qui est fort pro-Windows? Et qu'est-ce que ça implique? Je trouvais ça intéressant, hein? Je n'ai pas la réponse, mais...
J'ai travaillé dans une ASBL qui avait utilisé des logiciels libres et Linux, entre autres. Bon, toute l'équipe ne se mettait pas au diapason de Linux, évidemment, libre choix individuel. Mais il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles liés au passage de logiciels à logiciel libre à logiciel privé, donc propriétaire. Et encore maintenant, dans une autre ASBL où je travaille, c'est encore le souci, c'est un gros souci. Je trouve que c'est très bien en théorie, je suis pour, hein, évidemment, mais ici, on parle globalement, ce serait bien une formation très pratique pour tous ces petits détails de passage de logiciels privatifs, système Windows à système Linux et logiciels libres, parce que au quotidien, je le remarque au quotidien, quand on veut travailler sur un logiciel libre et que d'autres collègues travaillent sur Google Docs, il faut expliquer aux collègues qu'il faut télécharger ton fichier et l'enregistrer avec une extension ODT ou ODF pour que moi je puisse le lire ou pour qu'elle puisse le lire. Et donc c'est des problèmes parfois, des petits détails comme ça très pratiques qui font que tout le monde ne veut pas, c'est pas par principe, mais avec des problèmes très pratiques, quoi, de passage de fichiers privatifs à fichiers libres. Voilà.
Et, juste pour rebondir aux différents problèmes, alors, face à des problématiques comme celle-ci, est-ce que, comme tu le disais, peut-être vous, quand vous accompagnez à Tactique, quand vous accompagnez, alors vous faites aussi comme une sorte d'explication aussi sur les enjeux, enfin qui permettent aussi de dépasser des frustrations individuelles, de la perte sur son, de la perte de temps peut-être sur ses opérations, ou alors, vous alors au CMEA ou à Inter-Environnement Bruxelles, comment vous avez géré peut-être l'impression pour les personnes qui ont dû transiter de perdre du temps sur du temps de travail. Est-ce que vous avez dit OK, bon, on va aménager les emplois du temps de chacun pour pouvoir dégager du temps pour se former pendant X temps sur un plan d'action, et comme ça les personnes ne doivent pas prendre sur elles, mais que ce soit pris en charge vraiment par l'organisation pour pouvoir avoir de l'adhésion des personnes. Et donc, je suppose que si ça a été fait, comment vous avez financé ça aussi au niveau de votre budget annuel, sur quel poste vous avez budgétisé ça? Est-ce qu'il y a des incitants au niveau des subsides publics pour permettre aux associations dans le non-marchand de transiter?
Mais donc quand on a fait de grosses transitions comme celle vers CiviCRM ou Nextcloud, eh bien on s'est fait accompagner par Tactique, qui nous a fait des formations sur mesure pour l'utilisation de ces logiciels. Donc là, on a dégagé une bonne journée de travail à chaque fois pour l'équipe. Et puis après, il y a un accompagnement au jour le jour pour répondre aux différentes questions. Pour financer ces formations, il y a un truc génial en Belgique qui s'appelle le fonds 4S. Et donc, chaque association a droit à... Nous, on a 10 000 euros. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais 10 000 euros sur un programme de 3-4 ans. Et alors, y a un catalogue de formations, mais on peut aussi faire des formations sur mesure et dire, c'est exactement ça qu'on a besoin avec cet opérateur-là. Est-ce que vous financez? Oui, non. Ça fonctionne assez bien. Par rapport au problème que tu évoquais, bon, là, c'est assez précis comme problème de format non compatible, etc. Moi, j'ai quand même le sentiment que ça s'améliore de jour en jour et qu'il y a aussi des avantages par rapport au logiciel propriétaire, en fait. Il y a une ouverture plus large du logiciel libre que ce qu'on trouve dans le logiciel propriétaire. En fait, souvent, dans les logiciels propriétaires, on est enfermé, obligé d'utiliser tel logiciel. Là, on peut migrer, justement. On peut aller vers autre chose. Voilà. On perd parfois quelque chose, on gagne d'autres choses. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que tout le monde s'y retrouve.
Je veux bien rajouter quelque chose par rapport à ça. Je ne sais plus exactement qui l'avait mentionné, mais j'ai entendu parler de Open Office. Et en fait, moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de Libre Office. En fait, Open Office, à un moment donné, a été racheté et en fait, a un développement qui s'est un peu étouffé à un moment donné. Là où LibreOffice en fait est ce qu'on appelle un fork de OpenOffice, en fait c'est la communauté qui a repris le logiciel, en fait la dernière version de OpenOffice qui a été développée et qui a refait un autre logiciel à partir de ça. Et en fait LibreOffice est beaucoup plus à jour. Et donc j'ai l'impression qu'en fait moi des problèmes que j'avais déjà eu de questions de format à des moments entre OpenOffice et la suite de Microsoft. Bon, c'est vrai que maintenant, j'utilise plus tellement la suite de Microsoft, je dois l'avouer, mais j'ai l'impression qu'en fait, ces problèmes-là ont quand même pas mal disparu avec aussi les dernières versions de LibreOffice. Donc, si c'est OpenOffice que vous utilisez, c'est peut-être quelque chose à tester, d'utiliser plutôt LibreOffice qui est un peu plus moderne et qui est un peu plus de... qui est un peu plus moderne. Après, concernant la question de est-ce que c'est des personnes qui est-ce qu'on éloigne les personnes en fait des milieux du travail si on les forme à ces logiciels là, je pense que c'est vraiment une question que ça peut dépendre de logiciels, et par exemple dans le graphisme c'est probablement complètement différent. Par exemple sur la bureautique, moi j'ai fait quand j'étais à l'université à Paris, j'ai eu une formation de bureautique qui s'est faite à l'époque justement sur OpenOffice. Et en fait, j'ai appris la bureautique avec OpenOffice. Donc, j'ai appris en fait à comment gérer des styles, à comment en fait utiliser un traitement de texte et un tableur de type calque. Et en fait, à un moment donné, quand plus tard j'ai utilisé la suite de Microsoft, en fait, à aucun moment j'ai été perdue parce que je savais finalement les bases de la bureautique, en fait, des choses qui étaient très très génériques sur ce type d'outils. Et en fait, je remarque aussi à des moments dans les formations que je donne pour Tactique ou l'accompagnement que je fais, c'est qu'en fait, les personnes qui travaillent sur la suite de Microsoft, très souvent n'ont pas non plus été vraiment formées à ces trucs-là. Et en fait, il y a plein de petites choses que Microsoft Office, un peu implémente par défaut. Par exemple, typiquement et bêtement, des plus jolis styles. Mais en fait, si en contrepartie, on a appris un peu à gérer ces styles sur LibreOffice, on arrive assez facilement à reproduire quelque chose de similaire. Mais il faut un peu avoir un peu de formation là-dessus. Mais du coup, j'ai l'impression que finalement, apprendre sur, en tout cas pour ce type de logiciel, apprendre sur un logiciel libre, ça va donner en fait certaines clés certaines compétences en fait que les gens vont pas forcément développer en utilisant Microsoft Office parce que Microsoft a automatisé une série de choses et que finalement, quand c'est automatisé, on n'a pas besoin de les apprendre.
Mais pour compléter ce que Céline dit maintenant, c'est vraiment ça, c'est est-ce que on habitue les gens à travailler, à utiliser un logiciel, qui va être Word ou OpenOffice, pareil, ou LibreOffice, pareil, ou est-ce qu'on leur apprend à utiliser un outil qui est un traitement de texte, en fait, et à faire du traitement de texte, et donc à comprendre les styles, à comprendre les polices, à comprendre de mettre en grès, des choses comme ça. À partir du moment où on aborde des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile de passer d'un logiciel à un autre, et ça, que ce soit sur le traitement de texte, que ce soit sur les tableurs, que ce soit sur le traitement d'images, ou des choses comme ça. Et alors, plus sur la perte de temps et sur les difficultés, moi, je pense qu'il faut réfléchir la transition aussi de manière... faut pas tout changer en une fois, quoi. Parce que si on change tout en une fois, il y a personne qui sait rien faire, tout le monde est perdu et tout le monde râle et on a tout perdu, quoi. Parce qu'on va juste revenir en arrière. Par contre, de passer de personne en personne et de qu'à un moment, quand il y a une personne qui maîtrise le nouvel outil, elle va pouvoir accompagner les nouveaux qui vont changer d'outil et au fur et à mesure. Et c'est comme ça. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait perdu du temps au CMA en changeant les logiciels ou le système d'exploitation. En tout cas, on n'en perd pas plus que les questions qui se posaient avant, quand c'était sous Windows, quoi. Les questions sont sensiblement les mêmes. Je sais pas comment est-ce qu'on utilise les styles, ou je sais pas comment, je sais pas, ça s'imprime de travers. C'était exactement les mêmes questions qu'on avait avec Word que celles qu'on a avec LibreOffice maintenant, quoi. Et par contre, une des choses que moi j'ai constaté, c'est que quand on a des nouvelles personnes qui arrivent pour travailler au CMEA et qu'on leur donne un ordinateur en disant ben voilà, c'est ça qu'on utilise, généralement, c'est avec ces personnes-là qu'on a le moins de questions, quoi. Elles le prennent, elles l'utilisent et ça marche tout seul, quoi. C'est plutôt les gens qui ont dû changer, qui utilisaient un système avant et qui, dans la même structure, ont changé d'outil.
J'avais une petite question parce que on parle souvent des freins pour les logiciels libres. On les connaît pas, c'est décentralisé, etc. Mais j'avais également une autre question, c'est-à-dire que lorsqu'on a accès, par exemple, à la suite Microsoft et qu'on est une association, souvent on a tout gratuitement et sans aucune limite parce que c'est nous le produit d'une certaine manière. Ici, est-ce que vous, dans vos associations, lorsque vous êtes passé à des logiciels libres, quand on calcule le prix par travailleur des différents outils mis en place pour pallier à cette situation où on n'utilise plus Microsoft, est-ce que c'est une somme importante? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il y a beaucoup d'outils libres qui sont gratuits? Enfin, voilà, je découvre un peu, donc merci.
Oui, moi j'avais deux questions. J'ai entendu parler de OnlyOffice aussi, qui permet de faire du travail collaboratif. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que LibreOffice permet aussi de faire du travail collaboratif? Et ma deuxième question, c'est qu'on me demande souvent, il y a le couple Exchange Outlook qui fonctionne très bien sur smartphone avec la synchro des agendas, des contacts, des mails. Qu'est-ce qu'il y a comme outil libre pour faire ça en plus de Thunderbird pour que tout reste synchronisé également? Merci.
Moi, c'est plus une question à mes collègues de lire et écrire communautaire. Je voulais savoir où vous en étiez dans... Enfin, est-ce que vous réfléchissez à transiter? Et voilà, où en êtes-vous par rapport à ça? Parce que je me dis, c'est tellement proche des valeurs d'éducation permanente, enfin, prônées par lire et écrire. Et en tout cas, je sais que à lire et écrire Bruxelles, ben... C'est compliqué. Voilà, moi, je passe de lire et écrire Bruxelles à lire et écrire Namur. J'aimerais bien pouvoir continuer à travailler en libre. Alors, j'ai de la chance d'avoir un mari informaticien, donc peut-être que qui est pro libre, donc peut-être que ça va pouvoir se faire pour moi et ma machine. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une réflexion dans les lire et écrire à ce sujet-là. Et j'en suis d'autant plus... Enfin, ça m'interpelle d'autant plus avec ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je savais en partie, mais là, je me dis, waouh, enfin, ce serait peut-être bien d'y réfléchir un peu plus... Voilà.
Bravo.
Ah oui, pardon.
Nous, on n'a pas encore de réflexion ici. Je sais que lire et écrire Brabant Wallon a réfléchi là-dessus, mais je ne sais pas où c'est arrivé.
D'accord. Après, il y a la réflexion. Oui,
malheureusement,
je ne comprends pas du tout. J'ai
organisé cette journée, c'est un message subliminal. Juste une question avant que tu répondes, c'est est-ce que OnlyOffice a un niveau de... Je voulais juste ajouter, est-ce que OnlyOffice a un niveau de compatibilité avec Microsoft Office plus élevé, parce qu'il y a une institution à Liège qui nous a sorti cet argument-là.
C'est ce qu'on raconte. Je n'ai jamais testé réellement. Mais...
Pour la question des coûts, je pense que c'est... Je pense que les GAFAM, avec tous les trucs gratos qu'ils mettent en place, les licences éducation gratuites, le programme Socialware qui permet aux associations d'avoir des licences quasiment gratuites, cette question-là, elle est hors sujet. En fait, les GAFAM gagnent toujours. Tu vois, à partir du moment où tu fais un peu de l'accompagnement, un peu de la formation dans une structure, ben oui, tu dois comparer avec ça aussi, qui serait fait avec des outils propriétaires et les outils des GAFAM, tu vois. Mais quand tu fais une transition, t'as souvent en tout cas un accompagnement, des formations et tout qui se mettent en place, et du coup, il faut les payer, donc c'est toujours plus cher. J'ai l'impression que c'est une discussion où on est de toute façon perdant.
Peut-être c'est un autre son de cloche plus positif. Mais oui, il y a de ça. Et voilà, moi, ça m'arrive souvent de dire aux gens, ben oui, déjà, on va vers des outils moins performants. Potentiellement, ben, ça va vous coûter plus cher, en tout cas dans l'immédiat, parce que vous allez devoir payer la formation. Effectivement, il y a de ça. Après, et j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un exemple que je peux retrouver facilement et potentiellement aussi fournir par la suite. Par exemple, la collectivité territoriale de Grenoble, je crois, a décidé de faire cette démarche-là en tant que collectivité territoriale avec l'idée, ben, en fait, on va faire cette transition-là. Ça va nous coûter cher pendant certaines années parce que, ben oui, il va y avoir besoin de formation pour les équipes. Mais en fait, on va prendre ça en charge et si on calcule sur le long terme, en fait, avec tout ce qu'on a comme licence par ailleurs de Microsoft, en fait, au final, on va s'y retrouver. Et donc, eux ont vraiment mis en dans l'idée de se dire, ben, en fait, on va penser sur le long terme, on va investir de l'argent dans des formations, on va aussi potentiellement ben, faire un recrutement qui tienne compte de ça. Par exemple, ben, voilà, il y a des recrutements à faire dans l'équipe informatique, ben, voilà, on va essayer de chercher des gens qui connaissent ces outils-là. Maintenant, quelques années après, commence à dresser un bilan quand même relativement positif. Maintenant, comme je dis, j'ai plus les chiffres en tête, donc faudrait que je regarde, mais c'est quelque chose qu'on peut potentiellement vous envoyer parce que je pense que ça a été, enfin, qu'il y a un peu de projection sur aussi, ben, au final, où est-ce qu'ils en sont financièrement, et je crois que c'est pas si mauvais que ça sur, bah oui, potentiellement plusieurs années, certes, mais voilà.
Sur la question des coûts, je pense que c'est à voir au cas par cas. Je citais tout à l'heure le passage de notre base de données. On utilisait avant un logiciel propriétaire qui s'appelait Efficy et qui nous coûtait 3 500 € par an. Et en fait, enfin, les logiciels destinés aux entreprises, tout ça, c'est toujours super cher. Et on avait apparemment un super prix qui avait été négocié, tout ça. Donc, c'est quand même, ça a un coût qu'on ne paye plus aujourd'hui. On a payé peut-être l'équivalent la première année pour l'installation, la configuration du logiciel et les formations. Et aujourd'hui, bah, c'est une somme qu'on ne paye plus. Donc, au cas par cas, je pense qu'il y a quand même des économies à faire.
Moi, j'avais peut-être une réponse plus par rapport à... Pour les coûts, nous, on s'est jamais tracassé des coûts et on n'a jamais voulu utiliser ça comme un argument en disant c'est pour ça qu'on passe au libre, c'est parce que ça va nous coûter moins cher. On n'a jamais fait de calcul. Plus par rapport à la question que tu posais sur ben, quand est-ce qu'on décide, est-ce qu'il y a une réflexion sur les choses dans les institutions. De mon point de vue, il faut qu'il y ait une décision institutionnelle de dire c'est vers ça qu'on va. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, ça reste très flou, ça reste fluctuant et donc chacun fait un peu ce qu'il veut et donc il faut vraiment qu'il y ait une décision et un soutien institutionnel. Pas tout changer d'un coup, mais dire c'est vers ça qu'on va aller.
Je veux partager le constat qui a été fait ici pour les ordinateurs installés sous Linux et les réticences des utilisateurs eux-mêmes. Alors je parle pas de travailleurs, mais plutôt de personnes qui sont en formation ou des bénéficiaires. Dans mon cas, je travaille au SAMU social de Bruxelles, dans lequel il y a des personnes qui suivent des formations. Les formateurs imposent du Windows, imposent du Microsoft dans le cadre de leur formation. Moi, ça me cause un vrai problème en termes de pédagogie. Est-ce que il y aurait un moment là, comment faire pour justement essayer de pousser les formations à ce qu'elles soient opérées? J'entends écrire un CV, on peut l'écrire en LibreOffice, en OpenOffice, comme on peut l'écrire en Microsoft. Je suis assez étonné de voir qu'encore aujourd'hui, des formations sont données sur des logiciels propriétaires. Pour aussi, dans notre cas, on n'est pas sur Microsoft au niveau cloud et tout ça. C'est quand même 3,50 €, même en tant qu'association, par mois et par utilisateur. Quand on est une petite structure, c'est pas très cher. Mais quand on est un gros mouvement ou une fédération, ça devient coûteux, finalement. Et alors, ma réflexion sur les PC sous Windows ou sous Linux, est-ce que vous pensez pas que, comme on paye déjà la licence en achetant la machine, enfin, parce que quand on a une machine équipée d'un Windows à l'achat, on a payé la licence à Microsoft pour l'avoir. Au lieu de prendre du temps, si j'ai 500 machines à déployer, au lieu de prendre du temps de voir tout redéployer sous Linux, est-ce qu'il n'est pas préférable de la garder sous Windows et d'installer que des logiciels open source dessus? Voilà, ça, c'était un peu une réflexion que j'ai plutôt comme technicien et dans la pratique afin d'éviter ces réticences qu'on pourrait avoir de la part des utilisateurs qui, eux, ont l'habitude de leur environnement habituel qu'ils ont chez eux à la maison.
Mais moi, j'ai un peu un contre-exemple qui m'a surpris. Je bosse dans une grosse machine CPS de Bruxelles, donc presque 3000 personnes. Et donc, on est une équipe de formateurs. Pendant le Covid, il y a eu la question d'essayer de maintenir un lien à distance, etc. Et c'est en s'appuyant sur les règles, entre autres, du RGPD et d'un avis de notre système informatique, qu'on a forcé une équipe qui était justement très, très classique, WhatsApp et compagnie, à bosser en lien avec les élèves, avec Signal et avec Jitsi. Et donc, institutionnellement, de par les règlements qu'il y avait, etc., il y a eu une décision qui était favorable au libre, alors que c'est un environnement qui n'est pas très ouvert et qui, pour le reste, fonctionne sous Windows, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était une petite lueur d'espoir dans un contexte un peu tendu. Hein.
Je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais c'est une grosse question. C'est par rapport à l'IA. Et donc, IA libre, je ne crois pas que ça existe encore. Est-ce que ça a du sens pour les ASBL d'utiliser de l'IA? Mais bon, alternative aux GAFAM. Les GAFAM foncent vers l'IA, intègrent donc tous les services en ligne avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est une question qui est sur la table pour les ASBL d'utiliser de l'IA? Parce que bon, en formation, en aide numérique, avec des personnes que l'on forme pour utiliser des logiciels libres, qui par après vont se retrouver dans le monde avec des logiciels privatifs, propriétaires, avec de l'IA. J'ai déjà vu des apprenants qui utilisaient de l'IA sur leur smartphone. Et donc, moi, c'est une question qui me trotte dans la tête. Je ne sais pas quoi penser de ça.
Plus sur la question de la formation. Donc, nous, on est organisme de formation. Et donc, à certains moments, de plus en plus, on se retrouve à utiliser des outils numériques aussi en formation. Le pli qu'on a pris, c'est on ne va pas forcer les gens à changer les habitudes qu'ils ont. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va arriver à un moment va utiliser les ordinateurs, il y en a qui seront sous Windows avec Word, c'est ça qu'ils utiliseront s'ils veulent taper un texte ou des choses comme ça. Par contre, ce que nous on va proposer à ceux qui sont pas outillés ou ceux qui ont pas, c'est effectivement c'est chaque fois des logiciels libres. Ça fait lien avec ce que je disais tantôt, c'est aussi de à un moment ce qu'on veut permettre aux gens, c'est d'utiliser un traitement de texte quel qu'il soit. On peut leur proposer des alternatives qui sont là, qui existent, qui vont voir que ça fonctionne, mais on va pas les obliger à changer. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et alors sur la question des machines aussi, nous les dernières machines qu'on achète, on les achète avec un Linux installé dessus, donc sans la licence Windows. Je pense que c'est un peu plus cher à l'achat en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on trouve aussi, mais en tout cas c'est le pli qu'on a pris maintenant. Et sur l'IA, on ne s'est pas encore vraiment posé cette question-là.
Oui, effectivement, par rapport aux machines, je disais dans ma présentation, voilà, c'est pas possible finalement d'acheter un ordi sans Windows. En fait, c'est possible. Et je pense que souvent, quand on achète du parc informatique, on va potentiellement commander en ligne. On va pas se rendre chez Carrefour pour acheter son ordinateur. Donc en fait, on peut aussi avoir cette démarche-là. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, du coup, c'est potentiellement des ordis un peu plus spécifiques, un peu plus avec des bonnes composantes. Et donc, ça va au final pas forcément être moins cher que d'acheter une machine plus bas de gamme et de retirer son Linux. Voilà, la question d'acheter un nouvel ordinateur, c'est évidemment une question à laquelle on est confronté. Mais Benoît soulignait le fait que Windows 10 arrive à terme cet automne. Il y a énormément de parcs informatiques. En fait, comme Windows 11 est compatible uniquement avec des postes de travail et des composantes très récentes, en fait, il y a énormément d'ordinateurs qui se retrouvent obsolètes du simple fait que Windows 11 veut pas qu'on puisse les équiper avec. Et en fait, tous ces ordinateurs-là qui sont encore complètement fonctionnels, ça peut valoir la peine de se poser la question, est-ce qu'on achète pour tout le monde des nouveaux ordinateurs avec du Windows 11 ou est-ce qu'on tente de passer sous Linux, quitte à se dire, c'est un peu à l'essai, on fait une transition, on verra comment ça se passe. J'ai l'impression qu'on peut sauver aussi énormément d'ordinateurs
Il y en a plein à récupérer dans les entreprises qui vont changer.
Donc, juste le nombre de machines qui va être impacté par ce changement-là, c'est 250 millions de machines qui, fin de l'année, devront aller à la poubelle s'ils veulent passer à Windows 11. Donc, c'est vraiment énorme. Et juste par rapport à la question de la licence, il y a Lenovo, en tout cas, qui maintenant vend des ordinateurs globalement le gros de toutes leurs marques sans OS, et donc c'est 50 euros moins cher.
Un aspect, c'est que les, il y a des distributions Linux qui sont très légères et qui tournent aussi sur des ordinateurs qui pourraient pas fonctionner non plus sous une autre distribution. Donc pour faire de la bureautique, moi je sais qu'à la maison, ma mère, je lui ai mis un ordinateur qui date de 2008, qui est énorme, laptop qui fait un bruit monstre, mais par contre il tourne parfait pour faire du traitement de texte, du Excel, etc. Donc parfois il n'y a pas forcément besoin de toujours aller vers des composants ou augmenter toujours la puissance de calcul de ces machines pour faire des trucs qu'on savait déjà faire il y a 10 ans sur les mêmes machines, quoi.
En fait, pour moi, ça, ce que tu dis, ça rejoint vraiment cet aspect aussi que cette transition-là, c'est une forme de décroissance numérique et de aussi à des moments, bah, potentiellement, pas toujours aller rechercher du neuf, aller rechercher du performant. Et effectivement, un des gros avantages de Linux, c'est de permettre de faire tourner d'anciennes machines. Et du coup, c'est juste parce que je voulais aussi répondre encore par rapport à la question de l'IA. Côté tactique, on est plutôt à dire que les associations n'ont pas besoin de ces outils-là. En fait, y a l'aspect de tout ce qui est impact environnemental. En fait, l'IA va décupler complètement toutes ces questions d'impact environnemental. En plus, la manière dont les données sont produites, la manière dont les IA sont entraînées, en fait, ça contient des gros biais qui sont très problématiques d'un point de vue social. C'est des outils qui, finalement, ne font qu'encore accélérer nos pratiques professionnelles, de dire, on va écrire notre CV plus vite, on va écrire notre dossier de subside plus vite. Peut-être il va être lu par une IA, donc il sera plus vite audité. Et en fait, on est vraiment dans un truc qui participe de tout ce qui est performance, de tout ce qui va avec le capitalisme aussi, qui, en fait, pour nous, un peu chez Tactique, ou en tout cas pour moi, s'oppose quand même beaucoup aux valeurs qu'on porte quand on est dans le secteur associatif. Et donc, j'ai tendance à vraiment dire, non, pour moi, ces outils-là, alors, évidemment, il peut y avoir des cas potentiellement utiles de traduction automatisée, où on veut un truc. C'est comme souvent, il y a un peu des pas forcément... l'un ou l'autre, mais je pense qu'en fait il y a plein de situations où on peut se passer de ces outils-là, et où progressivement ces outils sont en train de rentrer dans les pratiques, et en fait ça sera d'autant plus difficile, un peu comme les GAFAM se sont insérés dans les pratiques, notamment au moment du Covid. En fait, ça va être encore plus difficile après d'arrêter en fait ce truc-là quand on s'y sera complètement habitué. Je sais pas si tu veux.
Non, et c'est juste aussi, c'est toute une série de gens qui travaillent dans l'associatif, qui font des images, des illustrations, des textes, des traductions, qui vont aussi à un moment se retrouver complètement dégommés par l'IA, quoi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réflexion qui est en place là-dessus dans le secteur associatif. On y va, on génère automatiquement des images, on génère des textes, on fait des traductions automatiques. Et en fait, c'est une partie des gens qui sont employés par les ASBL qui vont gicler dans pas longtemps. C'est une partie de gens qui travaillent là maintenant, parfois avec des contrats un peu précaires, mais qui travaillent dans l'associatif et qui vont arrêter de devoir bosser parce que tout sera produit par l'IA.
Par rapport à l'IA, vous pensez qu'il y a un consensus parmi les développeurs du libre pour ne pas rentrer dans l'IA, développer des logiciels libres IA? Ok.
Il y a déjà des IA libres.
Ah oui. Ok.
Moi, j'irais dans le même sens que ce que tu as dit, en fait, par rapport à cette question. Et ça rejoint un peu ce que Chloé a dit au début. C'est que il n'y a pas de... La question de technologie, c'est toujours une question politique. Et la manière dont ces grands GAFAM et compagnie ont de présenter une nouvelle machine learning, IA, ou peu importe le nom, comme quelque chose d'avenir inévitable, et tout le monde va vers ça, c'est juste... une question de choix politique, en fait. Le fait de dire, on n'a pas d'autre choix, c'est une manière de cacher la question politique, le débat politique démocratique sur est-ce que c'est vraiment utile. Personnellement, je pense pas du tout, surtout dans le monde social. Et l'autre question politique liée à ça, c'est que toutes ces manières de ce qu'on appelle rapidement la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire de tout gérer par des algorithmes a des conséquences extrêmement graves au niveau de l'automatisation des inégalités, des discriminations, des problèmes de respect des droits fondamentaux dans tous les secteurs. que ce soit les trucs de reconnaissance faciale, les trucs utilisés dans le système d'accès aux études, dans le système juridique. Donc c'est vraiment des questions extrêmement politiques et je pense dans le monde associatif, c'est aussi à nous de, comme le fait aussi les réécrire dans ses recherches, dans ses publications et tactiques et d'autres associations, de dire ben, en fait attention, c'est une question politique de société, c'est pas juste quelques développeurs qui vont nous dire ben non, c'est ça votre futur et puis vous n'avez pas d'autre choix à faire en fait. Donc j'irai parfaitement complètement dans le même sens de ce que tu as dit par rapport à cette question, même si ça m'attriste des fois, quand j'étais travailleur social, de voir des personnes utiliser machin pour faire animer. Ben non, ok, ça te prend 2 minutes en plus, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Parce que des fois, c'est le fait que ça va économiser un peu de temps, c'est aussi juste une illusion, quoi. Voilà, merci.
Ça me fait penser, juste dans la réflexion, et vraiment dans la réflexion, parce qu'à notre niveau, on a cette réflexion aussi sur l'utilisation de l'IA. Se voiler la face, qu'elle n'est pas utilisée par les travailleurs, c'est se voiler. C'est se dire quelle politique on va mener pour accompagner les utilisateurs à l'utiliser ou pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a une alternative, est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Je reprends l'époque du cloud. Quand l'avènement du cloud, tous ceux qui étaient dans le monde open source, moi en premier, ah non, jamais mes données seront dans le nuage. Jamais. Aujourd'hui, on parle de Nextcloud, on a passé toute la matinée à parler de Nextcloud. Donc je veux dire, à un moment donné, l'acceptation, le train est en marche. C'est de savoir comment on prend le train et comment est-ce que la locomotive va tourner au charbon. Comment on l'arrête complètement, mais ou comment on la calme. Mais c'est comment arriver à canaliser cette situation. Et nous, en tout cas, on est plutôt dans une réflexion dans quel cadre utiliser, quelles données doivent être injectées ou ne pas être injectées, la privacy dans les IA, et aussi l'IA... utiliser full en interne, en open source, parce qu'il en existe, comme Llama 3, qui sont des IA qui fonctionnent en open source. Après, oui, c'est énergivore quand on doit les apprendre. Hein. Mais quand on fait un film en Blender, qui est un logiciel open source, c'est aussi énergivore. Donc à un moment, c'est quel poids on met sur la priorité de la connaissance. Et voilà, quand on doit compiler des données... ça prend aussi beaucoup d'énergie. Et donc voilà, tout ça, ces questions sont quand même délicates. On peut pas juste le balayer d'un côté en se disant non, on va pas l'utiliser. Les autres l'utilisent très bien, nous on l'utilisera pas. C'est quand même une réflexion fondamentale à se dire à quel niveau on peut se le permettre. Oui, non, et où vont ces données et comment on peut les traiter.
On parle beaucoup des logiciels et tout ça, mais la réflexion, en tout cas au CBA, elle est partie de là. Et c'est quand même élargi grandement aussi sur, ben, entre autres, les licences qu'on utilise dans les publications qu'on fait, des choses comme ça, quoi. Donc c'est une porte d'entrée, mais ça risque, c'est sans doute très bien, et ça ouvre aussi d'autres réflexions sur les données qu'on a, les canaux de communication qu'on a. On s'est posé aussi la question sur est-ce qu'on est sur Facebook, est-ce qu'on n'est pas sur Facebook. Enfin, toutes ces choses-là sont parties de là aussi, quoi. Donc c'est pas la seule porte d'entrée de l'utilisation des logiciels.
Du coup, on fait la pause ?
Oui.